Bonjour à tous, donc Jérémy Royot pour Scepticisme Scientifique. Aujourd'hui, j'accueille la directrice du courant qui s'appelle Masso-Relaxation, Marie-Christine. Et voilà, bonjour Marie-Christine.
Bonjour Jérémy.
Et donc, voilà, donc j'ai invité Marie-Christine aujourd'hui pour parler un peu de ce courant qui est lié au massage et au bien-être et qui a aussi une inspiration du côté de la zététique. Donc je vais te laisser, peut-être pour commencer, simplement te présenter pour que les auditeurs sachent un peu, qui tu es.
Oui, donc je m'appelle Marie-Christine Oette, j'ai 55 ans et j'ai commencé le massage, on va dire, dans le cadre familial quand j'étais jeune. Après, j'ai toujours aimé le contact, le toucher. J'ai exploré un petit peu plus le massage bébé quand j'ai eu ma fille et j'ai eu l'occasion de découvrir et d'approfondir un petit peu plus les massages lorsque je suis partie en Angleterre sur Sheffield dans les années 80-90. Et c'est de retour en France en faisant des remplacements dans des centres de thalasso, de thermalisme, que m'est venu vraiment le désir de créer en fait ma structure. Voilà, donc j'ai fait beaucoup de massages, on va dire, en tant que relaxologue. Et progressivement, j'ai commencé à enseigner les massages à partir de 95, 1995. Et là, j'ai été confrontée à des gens qui m'ont interrogée, puisque naturellement, il y a beaucoup de croyances qui se véhiculent sur le corps humain. Et donc, il m'a fallu répondre et chercher par moi-même aussi à répondre à toutes ces questions du style mais vous avez certainement des énergies, ou on sent qu'il y a du magnétisme dans vos mains, ou ce genre de réflexions qui m'ont obligée à aller creuser, à investiguer un petit peu dans l'histoire de la médecine, hein, puisque ce qui concerne le corps humain, c'est quand même les sciences humaines. Et donc, petit à petit, voilà, j'ai bâti ma démarche. J'ai essayé déjà de comprendre et de répondre à toutes les interrogations que pouvaient se poser les gens sur le corps, de façon aussi à structurer ma pratique et progressivement à organiser des groupes pour pouvoir fournir des connaissances sur le massage, les mécanismes du stress, de la relaxation. Et en fait, voilà. Et aussi, bon, j'ai rencontré mes partenaires petit à petit qui m'ont permis de développer l'école. Et le concept en fait de masso-relaxation, il m'est venu un petit peu plus tard pour à la fois me dégager de tout ce qui est masso-kinésithérapie et ne pas empiéter sur le domaine thérapeutique qui est réservé à la kiné. Mais je ne voulais pas non plus être amalgamée à toutes les pseudo-thérapies et toutes les croyances que véhicule naturellement notre culture. Donc, il m'a fallu trouver ce concept de masso-relaxation. Bon, en fait, j'ai repris le concept de masso-kinésithérapie, dont la gestuelle est établie pour une visée thérapeutique, de rééducation fonctionnelle, de redonner au corps sa motricité, sa fonctionnalité. Donc, la masso-relaxation, elle, va construire une gestuelle pour amener la détente et la relaxation et ses effets de bien-être. Voilà, donc on se distingue à la fois sans ambiguïté de la pratique thérapeutique et également de la pratique pseudo-thérapeutique. Voilà, et après on a créé aussi donc le diplôme de masso-relaxologue par rapport à la masso-relaxation, de façon à structurer le domaine. De donner une certaine accréditation à faire un usage professionnel de nos techniques. On a créé toutes nos techniques et aussi de notre marque, puisqu'on a fait un dépôt de marque sur le massage holistique. Voilà, avec l'idée de constituer une sorte de label qualitatif dans la pratique, en tout cas, des massages sur le marché du bien-être.
Oui, donc juste par rapport à ce terme de massage holistique, donc je l'avais vu sur le site avec la description que tu en fais. C'est un peu surprenant puisque enfin, on va dire dans les approches classiques où il y a pas mal d'ésotérisme, on entend souvent ce terme holistique et souvent il est associé à une pratique qui englobe tout et n'importe quoi, y compris des choses très pseudo-scientifiques,
Oui.
ce qui est pas le cas ici en fait.
Non. Alors, c'est justement ce pourquoi on a voulu déposer la marque. Donc, on se positionne dans une approche holistique rationnelle, c'est-à-dire que toujours adossée aux sciences humaines, aux connaissances actuelles que l'on a sur le corps humain, et qui a toute sa légitimité, on va dire, dans une approche moderne. D'ailleurs, le terme holistique est également utilisé maintenant dans le domaine scientifique pour désigner une approche à la fois globale, sociale, contextuelle, socioculturelle. Voilà.
Tout à fait.
Alors que dans les approches traditionnelles ou les approches New Age, qui se revendiquent aussi d'une approche holistique, on est davantage basé sur des croyances et de ce fait, leur vision ou leur vision globalité est limitée à leurs croyances. Donc, on n'est pas vraiment dans une approche holistique au sens moderne, on est dans une vision réductionniste qu'impose leurs croyances sur le corps et le monde. Voilà. Donc, oui.
Oui, donc par rapport à la zététique, quand est-ce que tu as découvert en fait la zététique? Est-ce que c'était déjà quelque chose de connu pour toi au début de cette approche ou c'est venu plus tard ou...
C'est venu plus tard, disons que je faisais peut-être de la zététique sans le savoir, puisque c'est quand j'ai eu besoin en fait de répondre moi-même à ces interrogations que j'ai commencé à investiguer, à avoir une démarche où j'ai cherché à répondre, des réponses quoi, mais des réponses évidemment sur, comment dire, des réponses qui donnent du sens par rapport aux connaissances que l'on a à l'heure actuelle, pas simplement des croyances. Hein, donc j'ai commencé donc vers quand j'ai commencé à enseigner, donc vers 95. Et la zététique, ben, je l'ai rencontrée beaucoup plus tardivement, hein. Je dirais dans les années 2000, 2005. Bon, voilà, entre cette période-là.
Ok. J'ai un petit peu regardé le programme en fait des différentes formations sur vos sites et
Oui.
enfin, j'étais étonné de voir on va dire la science et la zététique ont vraiment une place importante. Il y a carrément des modules dans vos formations qui sont un peu consacrés à ça avec des ateliers.
Tout à fait.
Notamment, c'est vraiment une place importante en fait.
Oui, parce que ce qui nous distingue dans notre approche rationnelle de l'être humain et pour le développement même de la dextérité, du sens kinesthésique, de tout ce qui va faire la qualité du geste, on a besoin de comprendre le corps humain comme il est. Et si on ne comprend pas l'anatomie, qu'on n'a pas notre cartographie du squelette, de la musculature, de locomotion, eh bien la gestuelle va être approximative. On a besoin de s'appuyer sur une réalité corporelle, on va dire, pour développer notre gestuelle. Donc on est bien dans une approche rationnelle et la connaissance du corps humain est nécessaire. Par rapport au massage traditionnel, par exemple, dans leur perception des choses où le corps est perçu sans anatomie, eh bien, puisqu'on est dans des croyances énergétistes, la gestuelle est au prorata des croyances. Donc c'est pour ça que la gestuelle est assez brutasse, on va dire, en dehors des pressions qui cherchent on va dire, à stimuler ces fameuses énergies auxquelles il croit, ou à stimuler le yin ou le yang, ou une gestuelle qui cherche à manipuler des chakras, bah on ressent de suite la différence entre un geste qui est structuré mentalement par rapport à l'anatomie et un geste qui est structuré par rapport à des croyances. La qualité de du toucher va s'en ressentir.
Okay, donc on peut dire qu'il y a vraiment, enfin, au-delà de la des simples connaissances générales sur le fonctionnement du stress ou le fonctionnement des tensions musculaires, etc., on peut vraiment dire qu'il y a une science du massage qui permet de déterminer un petit peu quel massage est plus efficace ou plus positif pour la personne.
Je dirais pas qu'il y a une science du massage, il y a une science tout court que l'on doit respecter pour masser. Donc, cette science, c'est ce que nous révèle le corps humain. Et donc, c'est pour ça que l'on met de côté dans nos pratiques, parce que maintenant, pour le grand public, je me mets un petit peu à sa place aussi, c'est très difficile de faire la distinction, puisque les bouquins ou les formations sont construites pour, on va dire, mélanger les deux ou entretenir la confusion. Parce que les massages traditionnels, maintenant, vous allez trouver par exemple des planches de méridiens qui vont être dessinées sur l'anatomie. Or, traditionnellement, l'anatomie, la médecine chinoise, l'ignore. Elle ne sera acquise qu'à partir de la Renaissance. Donc, ils s'accaparent des connaissances qui ont une réalité, on va dire, qui ont une réalité et une notoriété aussi culturelle. Personne ne nie l'anatomie à l'heure actuelle, mais pour autant, ils ne renient pas leurs croyances aux méridiens pour les uns, aux chakras ou à des manipulations énergétiques pour les autres. Et donc, ils superposent les concepts, ce qui fait que le grand public est complètement dans la confusion. Ouais, c'est impossible de distinguer les deux si on ne s'intéresse pas à l'histoire de ces pratiques-là et que l'on cherche pas à creuser un petit peu. Donc, ce qui entraîne pas mal de dérives aussi. Dans les massages traditionnels, les gens ne se présentent pas comme des simples masseurs-relaxologues, mais comme des thérapeutes. Ils sont les représentants derrière d'une médecine traditionnelle qui, elle, garde le bénéfice d'une certaine notoriété. Médecine chinoise, par exemple. Même chose pour les massages indiens et la médecine ayurvédique. Ils s'adossent toujours à des traditions et pour le grand public, lui, il entend toujours thérapeutique, bah, ça doit soigner. Voilà. Donc si nous, on se présente simplement comme, on va dire, relaxologue, c'est très difficile. En plus, le niveau culturel des gens, c'est la croix et la bannière pour se faire entendre, parce que leur niveau culturel est déjà pauvre. Et il faut expliquer un tas de choses. Commercialement, ce n'est pas très facile d'expliquer souvent les erreurs qu'ils ont eux-mêmes avalées et avec lesquelles ils vivent, quoi. Donc, on doit un petit peu casser des mythes, casser un petit peu on va dire, de l'imaginaire, voilà, tout ce qui plaît en mystère, tout ça, c'est un petit peu. On leur demande de mettre tout ça de côté. Et c'est sûr que c'est moins drôle d'apprendre l'anatomie, la physiologie, que d'apprendre à masser dans le sens yin ou dans le sens yang. Voilà. C'est plus délicat d'apprendre à repérer le tissu veineux, de respecter la sensibilité des personnes. C'est plus complexe aussi que d'apprendre à presser ici ou à tourner là sans trop savoir ce que l'on fait finalement par rapport au corps humain. Voilà, donc le marché est assez complexe Et pour le grand public, c'est vrai que c'est très difficile de s'y reconnaître. Donc, d'ailleurs, il s'y reconnaît pas. Et
Ouais.
puis, c'est tout un commerce, hein, puisqu'on est bien sur un marché où les ouvrages sont volontairement construits pour entretenir, on va dire, des pseudo-effets thérapeutiques dans le bien-être, parce que c'est plus commercial.
Oui, on peut dire que dans ce type de métier, l'éthique scientifique pose un peu des problèmes par rapport au marketing, puisque pour qu'un cabinet de thérapie ou de bien-être fonctionne bien, bah, il faut se vendre, il faut attirer le public.
Oui.
Et le marketing est parfois contradictoire avec l'éthique scientifique, justement. Donc c'est un peu
Ben, l'éthique.
marcher entre deux bandes, quoi.
Oui, l'éthique, scientifique ou pas scientifique, c'est toujours délicat. Hein. Surtout quand on a des produits à vendre. Voilà. Mais c'est en plus, quand on est. Je dirais que d'être adossé aux sciences, ce n'est pas plus compliqué, au contraire. C'est beaucoup plus confortable. Et puis, l'avantage d'être adossé aux sciences, c'est que bah, on dépasse les clivages culturels. Donc, on peut aussi bien masser un Chinois que un Indien, qu'un Suédois, parce que heureusement, le corps, il est le même. Après, la perception, ça appartient à chacun, ça peut être interprété différemment, mais au moins le corps, il est le même. Et ça, je dirais, c'est quand même vachement rassurant. Hein, parce que quand on est dans les approches traditionnelles, il ne faut pas oublier que les méridiens chinois, par exemple, sont différents culturellement des méridiens thaïs et des méridiens japonais ou des méridiens indiens. Donc, aujourd'hui, pour faciliter le commerce des médecines traditionnelles, on va homologuer tous ces, on va lisser, niveler toutes ces différences culturelles pour mieux vendre les pratiques traditionnelles. Mais historiquement, les méridiens sont différents, les points d'énergie sont différents, parce que la perception du corps est différente d'une culture à une autre. Donc au moins, quand on s'adosse aux sciences, le corps, il est le même, quelle que soit la culture. Hein, on peut aussi bien travailler les massages en Inde qu'en Chine. On sait que le système nerveux est toujours géré de la même façon et que les vaisseaux sanguins sont toujours à la même place.
Tout à fait. Donc j'ai aussi une petite question par rapport aux différentes approches qui vous inspirent dans les différents sous-courants, entre guillemets. Donc j'ai vu vous enseignez toute une série de massages différents. Et j'ai vu que
Oui.
vous enseignez aussi dans certains modules qu'il y a certains outils qui viennent de la pleine conscience ou de l'hypnose. Est-ce que tu peux en dire un peu
Oui.
plus par rapport à ça?
Alors ça, c'est plus dans la partie de mon collègue qui s'occupe de la relaxation. Donc pareil, dans la relaxation, le champ est très investi par la sophrologie, qui se targue, on va dire, de développer une conscience supérieure, qui aussi utilise tout un langage sophronisant et qui se cache derrière des grands mots, mais en fait qui ne se reconnaît pas comme relaxateur ou relaxologue, mais qui s'appelle sophrologue. Et en fait, les sophrologues se présentent davantage comme des psychothérapeutes que comme des relaxologues. Or, ils ne font finalement que de la relaxation. Et donc, nous, notre politique, ça a toujours été d'investir ce qui existe déjà sur le marché et d'en proposer une forme, une. De décanter, on va dire, tout ce qu'il y a d'intéressant à garder et d'en proposer une version rationnelle. Donc, pour l'hypnose, on est obligé de partir de la relaxation parce que c'est quand même, ça passe par l'effet relaxant.
Tout à fait.
Et après, on a créé l'hypnose, l'hypnomassage pour investiguer aussi le domaine de l'hypnose qui est, on va dire, sur le marché investi par différentes personnes. Je ne sais pas comment les
Différents
qualifier parce
courants,
que
oui.
normalement, l'hypnose devrait être réservée à la psychologie ou à la médecine. D'ailleurs, elle tend à l'être, mais c'est vrai que c'est encore vecteur d'un tas de mystères. D'ailleurs, Charcot, qui a créé, enfin qui avait le premier utilisé l'hypnose, avait déjà été un petit peu mis sur la sellette à cause de ça. Parce que à la fin du 19e, on est encore sur une culture, une pensée magique. On a du mal encore à se départir. Puis il y a tout un courant de spiritisme qui est montant, qui fait que l'hypnose a été investie d'un tas de trucs, quoi. Dont il faut arriver à se départir. Voilà. Donc c'est très difficile de proposer une approche plus rationnelle de l'hypnose. Mais enfin bon, voilà. L'idée, c'est de proposer d'occuper le terrain à notre façon, face à ce qui existe déjà, et de proposer des produits intéressants aussi pour notre clientèle. Voilà, d'essayer voilà, d'occuper le terrain face à tout ce qui sort continuellement. Chaque année, il y a des nouvelles techniques. Voilà.
Oui, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis sur l'hypnose, dans le sens où, à la différence de la sophrologie, qui a été créée par une ou deux personnes très, très spécifiques, voilà, qui ont des idées spirituelles qui vont
Oui.
avec le courant, c'est pas
Oui.
vraiment le cas de l'hypnose, qui est plutôt un outil que différents types de personnes mettent à leur sauce, mais il n'y a pas de fondement spirituel ou religieux ou théorique très très précis dans l'hypnose. C'est vraiment un outil
Oui,
très neutre en fait.
tu as raison. C'est parce que justement, Charcot, c'était quand même le grand neurologue de la fin du 19e. Donc, il a testé ça. Il faut se remettre un petit peu dans le contexte de l'époque. On était encore dans les prémices de la psychologie. Donc, voilà, les maladies d'ordre psychologique et les maladies d'ordre neurologique, il fallait pouvoir faire le tri. Et bon, lui a cherché à travers l'hypnose à soigner les troubles qu'il pouvait comprendre en son temps. Mais c'est vrai que l'hypnose, après, a été investie par ces courants spirites-là, de Blavatsky et tout ça, et en apathie. Mais à l'heure actuelle, donc, on est en train de reprendre l'hypnose dans une approche médicale, notamment pour pallier ou compléter les soins d'anesthésie. Je pense qu'il y a des choses intéressantes qu'on peut utiliser par l'hypnose.
Tout à fait,
Maintenant, peut-être que c'est difficile à généraliser parce que ça va dépendre des, je pense, des, tout le monde n'est pas réceptif de la même façon à l'hypnose. Voilà, donc,
Bah, je pense
mais
que c'est un peu comme pour la pleine conscience, finalement, hein. C'est des outils qui peuvent être facilement adaptés à toute une série de choses. Et
oui.
on va dire que leur pertinence dépend un peu de la manière dont on va les appliquer, en fait, hein. On peut faire de l'hypnose ou de la méditation d'une manière très ésotérique, comme on peut faire ça d'une manière très cognitiviste.
Oui,
Ça dépend beaucoup du praticien, quoi.
voilà, tout dépend du praticien, de sa perception des choses, de son niveau de connaissance. Voilà, effectivement, tu as raison.
Par rapport à ton courant, donc est-ce qu'actuellement il y a beaucoup de massothérapeutes? C'est quoi le terme exact que vous utilisez?
C'est masso-relaxologue.
Masseur-relaxologue. Est-ce qu'il y a
Voilà.
beaucoup de masseurs-relaxologues actuellement qui sont passés dans ton école?
Bah, beaucoup, la conjoncture est difficile actuellement. On est une petite équipe encore qui sommes davantage développés sur Toulouse, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup proliféré, peut-être un petit peu sur Montpellier. J'ai quelques élèves qui venaient de Montpellier, de Bordeaux, mais c'est vrai qu'actuellement, c'est en plus la concurrence est rude, parce qu'il y a eu des écoles qui se sont davantage développées aussi, qui ont une force, on va dire, de communication beaucoup plus importante que moi. Et en plus, qui font la promotion de thérapie ou de pseudo-thérapie plutôt, qui plaît mieux pour la clientèle. Donc, pour nous, c'est très difficile. Voilà, ça a toujours été difficile, mais là, c'est encore plus difficile actuellement. Parce que le bien-être n'est absolument pas prioritaire dans la conjoncture ou la crise économique que l'on traverse à l'heure actuellement.
Ouais, ça c'est sûr. Ok. Et par rapport au métier en lui-même, est-ce que c'est un métier qui est parfois difficile pour les masseurs eux-mêmes? Qu'est-ce qu'on rencontre comme difficulté ou comme challenge
Bah, à part la conjoncture économique qui est difficile pour tout le monde, le métier, on s'adresse quand même par rapport au kiné, par exemple, on s'adresse, nous, à des clients qui sont en bonne santé. Donc c'est quand même, on travaille dans un cadre agréable. On travaille sur des gens qui sont certes stressés, mais qui n'ont pas de problème particulier. Donc c'est que du bonheur. Sinon, on travaille dans des beaux lieux, que ce soit des thalassos, des thermes, des environnements sportifs. Voilà, le métier est agréable, je dirais.
D'accord.
Oui.
Ouais. Moi j'ai une question qui s'éloigne fort de la zététique, mais ça fait des années que j'ai cette question, j'ai jamais eu l'occasion de la poser, donc je vais en profiter. Et je me suis toujours demandé si donc les gens qui sont dans des approches de massage comme la tienne ou d'autres, est-ce qu'il n'y a pas des difficultés avec certaines personnes par rapport aux limites, dans le sens où le massage est quelque chose d'assez intime déjà physiquement.
Oui.
Est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent, que les gens, par exemple, demandent s'il y a moyen d'avoir d'autres services, plus sexuels en plus, par exemple, ou ça n'arrive
Ah
pas
oui.
souvent?
Bah, nous, ça ne nous arrive pas parce qu'on a bien cadré les choses, je pense. Enfin, en tout cas, si ça arrive, c'est très rare. Peut-être par téléphone, parfois on peut nous poser la question si on fait du massage à caractère érotique, ou on sent que la personne, on va dire, tourne autour du pot, parce que c'est très rare aussi qu'elle ose poser la question directement. Mais donc ça, c'est une des dérives qui est, on va dire, associée au massage classiquement. C'est pas la plus embêtante, je dirais. Moi, ce qui me gêne enfin, bon, le plus, c'est les approches énergétistes, c'est les croyances, qui, elles, sont beaucoup plus pernicieuses et problématiques. Voilà. Après, dans le cadre de la formation, on respecte toujours, chacun a toujours sa pudeur, puisque ça fait partie de notre rapport au corps. On grandit et il est normal d'avoir de la pudeur. Donc ça, il est important psychologiquement de toujours la réserver, la respecter, pardon. Et donc, on a notre protocole, on a notre gestuelle qui est construite aussi pour tenir compte des zones d'intimité et ne pas donner en sensation de raison d'ambiguïté. Voilà, il faut que le geste soit clair et toujours bien délimité. Et donc ça, on l'apprend dans le cadre de nos formations. Ça fait partie des repères à avoir. Et puis après, on travaille toujours aussi avec les serviettes. Donc il y a une organisation de la séance qui permet à la personne de garder son intimité, on va dire, même si elle se dénude. Et on garde toujours nos clients au minimum en sous-vêtements, par exemple.
Oui.
On n'a pas besoin de les mettre à poil.
C'est pas un
Non
massage de
seulement.
tout le corps.
Oui, parce que moi, je suis aussi quelqu'un de pudique, et puis donc je ne voudrais pas être confrontée à la nudité de chacun. Donc c'est beaucoup plus confortable aussi, et puis ça évite toute ambiguïté. Donc,
Okay. Je pense que ça valait la peine de préciser parce que les limites sont tellement floues maintenant dans les approches de massage que on trouve un petit
C'est
peu de tout
pas.
quoi.
Oui, enfin, bon, c'est maintenant, quand il y a du massage érotique, on va parler de massage naturiste. Alors, je plains des vrais
Les vrais
naturistes.
naturistes, ouais.
Voilà. Parce qu'ils obligent, enfin bon, c'est souvent les masseuses ou les masseurs sont obligés d'être à poil en même temps que les clients. Donc c'est complètement stupide. Enfin bon, j'ai pas de qualificatif pour dire ça. On peut pas travailler à poil, quoi. On peut pas travailler, faire du vrai massage à poil. Et donc là, forcément, il y a forcément risque de dérive, quoi. Parce que la culture naturiste a aussi sa pudeur
Tout à
et
fait.
a aussi, on va dire, un rapport à l'autre qui est très codifié. Donc, et on peut pas masser à poil, quoi.
Oui. C'est tout
C'est
à fait.
ridicule.
Oui, je pense qu'un autre élément qui a contribué un peu à ce flou, c'est que il y a pas mal de pays où la prostitution est partiellement ou totalement interdite. Et traditionnellement, les gens ont annoncé leurs services comme des massages pour pas dire que c'est de la prostitution. Et on trouve ça encore dans les petites annonces, même en Belgique.
Oui. Et il y a de plus en plus de massages chinois, thaï ou japonais ou je ne sais quoi qui fleurissent sur le marché, qui nous cassent évidemment les tarifs et on ne sait pas trop évidemment ce qu'il y a derrière. Je doute fort et ça, c'est aussi, ça fait partie dans ma conférence sur la conquête du bien-être. Je doute fort que les cultures traditionnelles comme en Chine, en Thaïlande ou je ne sais quel autre pays où on vit au jour le jour, on puisse avoir développé des massages de bien-être. Parce que pour développer des massages de bien-être, il faut déjà que la société, elle ait un certain niveau culturel, un certain niveau de confort social et sanitaire pour pouvoir parler ou penser en termes de bien-être. Or, dans les pays comme en Chine, en Thaïlande ou autres, enfin bon, maintenant la Chine, on va dire, s'est développée, mais si on est dans la pampa, les gens sont encore en survie. Hein, ils sont encore. Donc on ne peut pas penser bien-être tant qu'on n'a pas un toit au-dessus de la tête et puis un repas au quotidien. Voilà, et ça, les gens l'oublient souvent. Ils oublient souvent la branche sur laquelle ils sont assises, en fait.
Oui, et puis les types d'approches de massage qu'on trouve là-bas sont en général des types très spécifiques, genre réflexologie plantaire ou des choses comme ça.
Bah, alors, figure-toi que la réflexologie plantaire, en fait, n'est pas du tout un massage traditionnel. En fait, parce que dans les traditions, comme en Chine ou au Japon, ils ont déjà leur concept culturel. Comme je te disais, les massages chinois, ils ont leur méridien chinois, et les massages thaï, ils ont leur méridien thaï. Et c'est pas eux qui ont inventé la réflexologie. La réflexologie, en fait, a été inventée aux USA à la fin du 19e par William Fitzgerald, donc qui était une sorte de naturopathe ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas lui qui a. Lui, il avait construit l'idée de zone réflexe ou de ligne réflexe. En fait, il partait des pieds, et puis on divisait à partir des pieds, on tronçonnait le corps en différentes lignes, donc 10, parce qu'on a 5 doigts à chaque pied. Et en fait, il disait que les lignes qui traversaient le corps, par exemple la ligne de l'orteil, si elle passait par le foie, on pouvait stimuler le foie à partir du pied. Tu
Ah,
vois?
d'accord.
Donc ça n'a rien à voir avec les méridiens. Les méridiens sont arrivés plus tard, ont été superposés parce qu'à un moment donné, ce truc-là de ligne, ça tenait plus la route. Quand on a compris un petit peu le système nerveux, quand même au début du 20e, on a connaissance du système nerveux et son histoire ne tient plus la route. Donc ils se sont amalgamés avec l'idée des méridiens, qui nous est arrivée avec nos colonies. Et donc, croyance plus croyance, ça marchait toujours, en tout cas pour un public qui n'avait pas accès à un niveau, enfin à la culture que l'on a à l'heure actuelle, hein. Mais ça n'a rien de chinois d'indien. Par contre, comme on a intégré en Occident les massages et la culture chinoise traditionnelle, et ben après, eux ont récupéré l'idée de la réflexologie, ils l'ont développée chez eux et nous, on l'a réagencé, si tu veux.
Ah
Donc,
oui.
ce qui fait qu'il y a eu des allers-retours ou des brassages culturels qui donnent la réflexologie à l'heure actuelle. Donc, il y a certaines écoles qui sont basées sur les méridiens et d'autres qui sont encore basées sur les lignes de William Fitzgerald. Voilà, mais on sait très bien à l'heure actuelle que ces zones réflexes n'existent pas. Donc la réflexologie est basée sur des erreurs. On ne peut pas, heureusement, pour nous qui sommes bipèdes, stimuler notre vessie ou nos reins en appuyant simplement sur les pieds.
Oui, tout à
Sinon,
fait.
ça poserait problème. Mais cela dit, comme ça s'est véhiculé, ce qui est dingue, c'est que on a même des infirmiers, des infirmières qui font de la réflexologie. Or, elles ont tendance à cautionner des inepties. Et parce qu'elles sont infirmières, pour le grand public, ils pensent que ça a forcément une véracité. Or, bah non, malgré le diplôme, comme quoi c'est pas forcément parce qu'on connaît le corps humain qu'on a cette démarche d'analyse rationnelle. C'est ça qui est aussi difficile à comprendre pour le grand public. Il pense parce que il a affaire à un médecin ou à un titre homologué et reconnu médicalement que tout ce que va proposer la personne est du même niveau. Ben, malheureusement, non, la réflexologie, c'est basé sur des erreurs conceptuelles qui datent de la fin du 19e. Et ça s'est véhiculé parce que c'est pas, c'est véhiculé par on va dire, des courants New Age, philosophiques, je ne sais trop quoi, mais ce n'est pas véhiculé par les sciences en tout cas. On ne trouvera jamais de zone réflexe dans un bouquin d'anatomie,
Tout à fait.
par exemple.
Ok. Bah écoute, merci pour toutes ces informations. Donc, je vais mettre sur la page du balado, je vais mettre les infos pour les gens qui voudraient jeter un coup d'œil à ton site web, aux différentes formations ou aux différents thérapeutes pour ceux qui ont envie de se
Différents
faire masser chez vous.
masso-relaxologues.
Masseur-relaxologue, pardon, excuse-moi. C'est difficile de se rentrer les termes dans la tête.
Oui.
Donc je mettrai toutes ces infos sur le site et voilà, je te remercie d'être venu sur le balado. J'espère que ça te fera un petit peu de pub aussi.
Oui, pour le site masso-relaxation.fr, oui, n'hésitez pas, effectivement, si vous voulez avoir des informations. On a une newsletter qui est mise sur la page d'accueil chaque mois, donc vous pouvez aussi regarder les conférences, les activités et les programmes sont également en ligne, les programmes de formation.
Ok, super. Bah, je vais mettre tout ça sur le site. Et donc, je termine cet épisode par une toute petite info rapidement. Donc,
Oui.
par rapport à Septics in the Pub Paris, donc ils sont en train de prévoir une deuxième soirée. Donc, il y aura lieu le 6 octobre où ils ont invité Olivier Brosseau qui viendra parler du créationnisme. Et donc, je mettrai aussi les infos sur le site pour ceux qui s'intéressent. C'est à 20h au bar de l'Hôtel à Paris. Voilà!
D'accord.
Merci à tous et à bientôt. Et donc merci d'être venu sur le balado.